France Inter.
C'est le moment nature, CO2 mon amour, effectivement. Bonjour Denis Chessoux, vous êtes dans le sud, sous les Embruns, en bord de mer.
Bonjour Éric Delvaux, eh bien oui, nous sommes à 7 avec le docteur Laurent Chevalier sur la jetée pour reprendre en main notre alimentation. En tout cas, on va essayer. On vous attend pour le journal de 19h.
À tout à l'heure.
Dites-moi Georges Brassens, vous venez souvent ici dans la maison de vos parents ?
Eh bien, je viens à peu près chaque année, je viens passer un mois.
CO2, mon amour.
J'ai vu que votre mère vous avait préparé des beignets aux moules à midi.
Et c'était les moules que j'avais pêchées hier.
Denis Chessoux.
Parce que vous pêchez pendant vos vacances.
Je pêche des moules, ça va pas plus loin. J'ai acheté un bateau pour m'isoler un petit peu.
Parce qu'ici, même dans votre ville natale, on risque de vous déranger.
Oh, c'est pas tellement qu'on me dérange. Non, les gens de Sète ne me dérangent pas. Ils me connaissent, alors ils n'éprouvent pas le besoin de me sauter dessus. Remarquez qu'on ne me saute jamais tellement dessus. Je ne suis pas un chanteur de chat.
Sur France Inter.
Brassens, Valérie, c'est évidemment un formidable trio avec sa maison qui était dans une rue montante du côté du Saint-Clair. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec Jérôme Ragano à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, Juliette Gou réalise l'émission et Thierry Dupin a choisi les disques. Oh là là, c'était vendredi, la journée des glaciers. Alors je comprends très bien que si vous habitez l'Île-de-France, la Bretagne, le Berry, cela vous est un tout petit peu échappé. Dites donc, le glacier là, je pourrais t'interroger pour mon émission ? Ben, tu vois pas que je fonds, que j'arrête pas de fondre. Je ressors bien plus d'eau de mes entrailles qu'il ne tombe de neige sur mon crâne. Et tu vois, en France, on s'est délesté de 40% de notre masse en 20 ans, et ça va s'accélérer. Alors tu veux une image ? Eh ben ça fait 3 piscines olympiques par seconde, mais sans Léon Marchand dedans. À force de cumuler depuis 10 ans les années les plus chaudes et encore les plus chaudes qui font 3 petits tours et puis s'en vont à la une des journaux, qu'est-ce que tu veux ? Qu'on se redresse et qu'on aille remplir vos vallées comme lors de la dernière glaciation. Ça, c'est terminé. Oui, mais il y aura quand même une nouvelle ère glaciaire. Mais il est gentil, ce Denis. Mais t'as pas tort. Mais tu attendras quand même 10 000, 20 000, 40 000 ans ou plus. Je n'ai même plus de page blanche pour rédiger un testament. Et ton épitaphe ? Oh, c'est simple. Sigi, un glacier tué par la folie réchauffante des hommes. Mais tu vois, ils continuent avec leur 4x4 à la con, leur avion, leur livraison en 48 heures, avec leur armée d'esclaves. Et sur tous les continents, c'est pareil. On pleure tous. Caucase, Moyen-Orient, Nouvelle-Zélande, Canada et même les hautes montagnes d'Asie, l'Himalaya semblait à l'écart. Eh ben non, plus maintenant. Ainsi fondent les glaciers du monde entier. Et nous en France, on est des rapides, un record. En 2022 et 2023, nous les glaciers des Pyrénées et des Alpes, on a perdu 10% de notre volume. Oh, en 2 ans, 10% de votre volume ? Eh oui, demande à ton IA ce qu'elle peut faire. Eh ben rien, à part nous réchauffer la gueule un peu plus. Enregistrer nos derniers chants, reconstituer notre jeunesse, compiler nos amours fertiles avec les vallées, alors ça oui, elle saura faire. Mais ça va être compliqué votre vie demain à vous tous les glaciers. Et surtout à vous aussi, parce qu'on régule le climat et 2 milliards d'humains dépendent de nos eaux. Bande de jouisseurs imprévoyants. On est 275 000 inscrits au catalogue des glaciers du monde entier, petits et grands. En 2100, la moitié d'entre nous seront décédés, comme vous. Mais nous, ce n'est pas normal. Alors tu as quand même une association valeureuse qui s'appelle Marge Sauvage, qui organise le premier festival Agir pour les glaciers, avec le soutien d'ailleurs du collectif 1% pour la planète, avec un objectif clair, bâtir un mouvement d'entreprises philanthropes qui s'engagent à reverser chaque année 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et tu vois, Marge Sauvage a raison d'anticiper notre fonte, car nous sommes des écosystèmes à haute valeur écologique. Et comme nous sommes sur des terrains communaux, eh ben ça peut aiguiser des appétits une fois la glace fondue. Ah bah oui, parce qu'ils vont continuer à presser le citron. Et l'eau de la planète encore et encore. Nous sommes donc très symboliques d'une société mondialisée, arrogante, de technicisme, mais qui fond, qui se délite, qui explose en tout. Nous, tu vois, on siffle la fin de la récré au milieu des psychopathes, des killers de nature qui vous dirigent. Bon, ben allez, t'inquiète pas le glacier, ils vous rendront hommage lors des JO d'hiver de 2030 à coups de canons à neige, s'il fait assez froid. Et puis tout ira bien. Allez, direction donc l'Hérault à 7, vous l'avez compris, avec Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, qui nous parlera de poissons en criant à la criée. Oh non, non, calmement, adossé à la jetée de 7.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire, la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop.
Bah, elle nous l'a dit, et puis on en a besoin. Donc, courage, c'était Clara Luciani. Allez, nous partons à 7 avec Laurent Chevalier.
Vous savez, Paul Valéry disait, en parlant de 7, c'est une île singulière. Je pense que c'est exactement ça. En plus, vous avez vu, il y a beaucoup de canaux. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la petite Venise. C'est quelque chose qui est assez charmant et ça fait des dizaines d'années que je viens régulièrement sur 7. C'est une ville très populaire qui a un peu évolué. Vous savez que c'était une ville historiquement qui était très communiste. Ouais. Donc il y avait un fort pouvoir militant. Tout ça, ça a évolué, ça s'est un petit peu embourgeoisé. Et parallèlement, le tourisme s'est beaucoup développé. Mais il reste une âme à 7, l'âme des pêcheurs. L'âme de Georges Brassens, l'âme de la bonne nourriture, l'âme des produits de la mer. Et finalement, c'est une ville assez extraordinaire, j'aime bien. Et puis j'aime bien toutes ces villes un petit peu portuaires où on voit l'horizon, on voit l'infini. On imagine tous ces bateaux qui partent. Et finalement, ça a un caractère assez extraordinaire.
Laurent Chevalier, homme de l'Hérault, m'a dit « Allez, tu vois, on va à 7, c'est sympa. » Bon, malgré un projet d'artificialisation délirant de la mairie qui vise à transformer la place principale en parking, donc encore une vision d'avenir, d'où le combat de l'association Banc Public, voilà. Sinon, évidemment, du Mont-Saint-Clair, donc à la mer, c'est une ville qui est quand même très sympa. D'accord, il y a des pistes cyclables, mais la voiture reste reine et non petite reine. Laurent Chevalier est donc médecin nutritionniste, reconnu, a été chroniqueur d'ailleurs dans C'est au de mon amour il y a 20 ans, histoire de nous rajeunir. et a sorti avec Claude Aubert un très bon livre édité chez Fayard qui s'appelle « Faites votre révolution alimentaire ». Du sol à la fourchette, les clés d'une assiette qui fait du bien. Et puisque quand même l'alimentation est à l'origine de pas mal de misère, de risques de maladie et de 30% des émissions de gaz à effet de serre, bah il est plus que temps de reprendre le contrôle de sa dite assiette. Et comme nous sommes à 7, surplombant donc les bateaux de pêcheurs depuis la jetée, jamais loin du cimetière marin et du musée Paul Valéry, et ben nous commençons par les poissons. Mais d'abord, tenez, un petit sondage.
Mais je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante des Français sur à la fois trouver le bon équilibre alimentaire, à la fois penser à sa santé. Vous savez qu'il y a 3/4 des Français qui aujourd'hui... On se soucie là d'avoir une alimentation santé qui soit bien. Et puis, le lien avec l'environnement. Alors, quand on voit le lien avec l'exigence environnementale et quand on voit les différentes enquêtes qui ont pu être faites, finalement, schématiquement, on peut avoir 3 catégories de personnes. On a à peu près la moitié, 45% des personnes qui sont sensibles à des degrés divers à cette exigence environnementale. On a à peu près 36% qui sont classés indifférents, c'est-à-dire qu'ils pensent déjà qu'ils font bien parce qu'ils font de la cuisine maison, etc. Et puis, vous avez le reste, un peu plus de 15% qui, finalement, sont, je dirais, réfractaires à ces aspects-là qui sont pourtant essentiels. Et quand on approfondit un peu plus, on s'aperçoit que, finalement, ces gens réfractaires sont plutôt en moins bonne santé aussi. Donc, c'est quand même important. Donc, il y a aujourd'hui, on n'est que sur une planète. Il n'y a pas de planète de rechange. Avoir une préoccupation environnementale, c'est essentiel. Et bien dans les choix alimentaires, bien ça va se traduire de façon extrêmement concrète.
Voilà, donc je vous présente Samy.
Vous savez découper une sole, un loup.
Un loup ?
Un turbo ?
J'ai des notions mécaniques.
De toute façon, c'est de la viande ce soir.
Ouais, on va dire ça. Tu le mets avec Patrice, il le lâche pas.
Tu connais rien, tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson.
Ah ouais, parce que je me disais, quel rapport avec serveur?
Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson.
Le loup, c'est un poisson.
Alors, en parlant du poisson, puisque là, nous sommes ici donc à Cèdre, au-delà des thoniers que l'on voit donc au loin, on en est à 23 kilos par an et par habitant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces produits de la mer aujourd'hui?
Alors, sur le poisson, effectivement, la consommation moyenne est de 23 kilos... de poissons par an et par habitant en France, on est à 33 kilos pour tous les produits de la mer, c'est-à-dire avec les crevettes, les moules, les huîtres. Alors, pour les poissons, eh bien, si vous voulez, c'est des protéines de bonne valeur biologique, exactement comme la viande. On a toutes les acides aminés dont on a besoin pour ensuite construire nos propres protéines. Protéines qui vont permettre d'avoir du muscle, d'avoir des anticorps pour lutter, d'avoir aussi tout simplement les cheveux, les ongles, etc., le renouvellement de la peau, etc. Et donc, ces protéines de bonne valeur biologique, on les trouve dans les poissons. Ensuite, on va avoir du fer. Figurez-vous que le fer du poisson, c'est du fer diéminique, donc c'est du fer qui est bien absorbé, exactement comme celui de la viande, même s'il est en moins grande concentration. On a des vitamines aussi, de la vitamine B12, qui sert à la fabrication des globules rouges. On a un petit peu de vitamine D. On a des oméga-3, des acides gras oméga-3 qui sont intéressants pour le cerveau, pour lutter contre l'inflammation, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc on va les trouver dans les poissons dits gras, c'est-à-dire ceux qu'on va, les pêcheurs vont pêcher ici, du maquereau, sardines, un peu le thon aussi.
Donc tout ça. Il y a l'iode.
Et l'iode, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez remarqué que l'iode, ça ne se dose pas dans le sang.
Ah oui.
En fait, on n'arrive pas à le doser parce que c'est des infinitésimales. Mais c'est très important parce que ça permet de bien faire fonctionner la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande qui est à la base du cou. Et je dirais que c'est un peu le thermostat. C'est lui qui donne un certain nombre d'indications sur le métabolisme. Si vous êtes en hypothyroïdie, eh bien, vous avez un métabolisme défectueux. Vous prenez du poids aussi. Quand les gens prennent du poids, on dose les hormones thyroïdiennes pour voir s'il n'y a pas justement une hypothyroïdie. Il peut y avoir aussi des hyperthyroïdies. Donc, les gens sont parfois très agités, ont du mal à dormir, etc.
Et donc
c'est une glande extrêmement importante. Or, cette glande ne peut fonctionner que grâce à l'iode. Et cet iode, où on va le trouver? On va le trouver dans les produits de la mer. donc dans les poissons, dans les crevettes, dans les coquillages, etc.
Mais là, en respirant, ce que l'on fait là, ici.
Absolument. Et en respirant, effectivement, par inhalation, eh bien, on a de l'iode. Vous savez que quand vous...
Quand on est au bord de la mer.
Quand on est au bord de la mer.
Des embruns.
Voilà. Par exemple, une autre source d'iode, c'est le sel iodé. Mais le sel marin, en tant que tel, ne contient pratiquement plus d'iode parce que justement, l'iode s'est évaporé. Ah. Donc, on rajoute de l'iode au sel.
Ouais.
Et quand vous devez choisir votre sel, il ne faut pas surconsommer du sel, bien entendu, pour éviter les problèmes de tension artérielle, etc. Eh bien, quand vous achetez votre boîte de sel, vérifiez bien qu'il y a marqué iodé.
Ah oui, d'accord.
D'ailleurs, historiquement, les gens qui n'avaient pas d'iode, eh bien, on le trouvait
en montagne.
Et ce qu'on appelait les crétins des Alpes, c'était des gens qui étaient bouffis. Et en fait, ils étaient bouffis, pourquoi ? Parce qu'ils manquaient d'iode.
Bonjour le goéland ! Ça y est, ils sont passés, c'est formidable. Donc, alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur poissons, pollution, mercure, etc.
Alors, il faut voir, je dirais, un petit peu les choses dans la globalité. C'est-à-dire que du mercure dans la mer, de l'arsenic dans la mer, il y en a toujours eu. Ça fait partie de la croûte terrestre. Le problème aujourd'hui, ça va être des rejets industriels qui sont mal maîtrisés. On a beaucoup parlé récemment du mercure dans le poisson. Alors, il faut arriver à nuancer un petit peu. Donc, il faut bien sûr arriver à maîtriser les rejets industriels. Donc, il y a ce problème-là, bien sûr. Mais globalement, individuellement, on est moins exposé au mercure qu'avant. Pourquoi ? Parce que, historiquement, eh bien, quand on faisait un plombage, ce qu'on appelait les plombages, c'était à base de mercure. Tout ça, c'est interdit maintenant. Les dentistes utilisent des ionomères, enfin, différentes substances, où il n'y a plus ce mercure. Donc, l'exposition en tant que telle au mercure a diminué. Et on sait bien que les poissons en bout de chaîne, les gros prédateurs en bout de chaîne, vont accumuler différents métaux.
Comme le thon.
Comme le thon. Parfois, on voit, on dit, voilà, on a ouvert les boîtes de thon, on a trouvé 100%, tous les échantillons, on a trouvé du mercure. C'est normal. Il y en a à la surface de la Terre. Donc, il y a du mercure dans les eaux, un petit peu. Le problème, c'est quelle quantité peut y avoir, quelle concentration il peut y avoir. Et puis, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites pour les femmes enceintes, etc. Notamment une étude à Rochester qui montrait qu'il y avait plus d'inconvénients à ne pas consommer de poisson qu'à en consommer chez la femme enceinte. Alors les recommandations aujourd'hui, c'est de consommer une fois par semaine un poisson gras qui va apporter des oméga-3, ce qu'on appelle la longue chaîne, c'est des oméga-3 qui sont longs. C'est eux qui assurent aussi en partie la maturation cérébrale au niveau du cerveau du futur enfant. Donc en prendre la bonne nouvelle, c'était qu'en prendre une fois par semaine, c'est bien d'après les recommandations de l'Agence de sécurité des aliments, l'ANSES.
L'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. C'est que jamais, quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines, ils mangent quand ils ont envie, et quand ça dîne et ça redîne, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond.
Laurent, donc faisons aussi donc, un petit hommage à la sardine, parce que ça vous l'aimez bien, donc la sardine, elle a quand même des tas de vertus, d'abord elle coûte pas très cher.
Voilà, c'est-à-dire que souvent on dit, bien se nourrir coûte cher, justement avec la sardine on voit exactement l'inverse. On a des protéines de bonne valeur biologique, on a des acides gras oméga-3. Donc, je veux dire, la sardine, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Alors, comment on peut la prendre, celle-là ?
Alors, vous avez deux façons. Je dirais, si vous avez la chance d'être en bord de mer, vous pouvez la prendre fraîche, en filet. Vous pouvez acheter des filets aussi surgelés. Puis, vous pouvez prendre tout simplement aussi des boîtes de sardines. Et dans les sardines, ça, c'est vrai, par contre, pour tous les poissons, il faut prendre que les filets. Alors pourquoi il faut prendre que les filets ? Parce qu'il faut savoir que malgré tout, on a parlé d'un peu de pollution, il y a des microplastiques aussi dans la mer,
oui,
malheureusement.
Je peux y venir, ça, bon.
Et ils sont où ? Ils se situent au niveau des poissons, au niveau des intestins. Donc si vous ne voulez pas absorber les microplastiques, vous prenez que des filets.
Bon alors, nos merveilleux petits poissons rectangulaires, qui ont très peu de nageoires et très peu de... Bref, les poissons panés. Et qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus ?
Alors... Il faut être quand même très très prudent avec ce type de poisson. Alors déjà, il ne faut pas que ça soit quelque chose de reconstitué. Et puis, le deuxième aspect, c'est que la panure, finalement, il y a du gras, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, il y a des additifs, il y a souvent tout un tas de produits qui sont ajoutés. Donc, si vous voulez faire un poisson pané, ben vous le panez vous-même. Vous prenez un filet de poisson et puis vous faites votre propre panure. Au moins, vous savez ce que vous mettez.
Et là, c'est tout un balai.
Les oiseaux qui avalent les poissons.
Donc, ah bah oui.
Sur le port, et il y a quelques petits poissons.
Hop là.
Les cormorants. Les goélands.
On a tout là. Alors, ça, évidemment, le cormoran, c'est hop, c'est pas exactement le copain du pêcheur qui regarde. Bon, il est habitué, mais enfin.
Et là, là-bas, on voit des hérons.
Oui. Chacun a sa place, mais en même temps, c'est la même nourriture. Donc, force la partager là aussi. Hein. Vous voyez, c'est un peu à l'image
absolument.
De ce qui se passe à la fois pour l'eau, pour l'alimentation, pour plein de trucs dans le monde. Ouais.
Ça plonge.
Hop.
Alors vous allez vous dire, eh ben ouais, ils sont à 7 et pas un seul mot sur la tielle. Attendez, restez avec nous. On écoute la chanson choisie par Thierry Dupin et on y retourne.
Claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu lui plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
Et oui, donc pour les jeunes générations, il s'appelait Brassens, originaire du Cétius Mons, la montagne à laquelle donc est adossée la ville.
Les poissons ont de si jolies têtes qu'on est obligé de les déplacer fréquemment à cause des ravages qu'ils font dans le cœur des méduses.
CO2, mon amour.
Les cœurs de méduses ravagés vont s'échouer dans les ports sous forme de pétroliers ou de charbonniers.
Sur France Inter.
Les méduses elles-mêmes ne sont jamais repêchées. Un nouveau cœur leur pousse, bien plus grand que le premier.
Denis Chessou.
On ne va pas vous donner donc des recettes de cuisine de méduse avec Laurent Chevalier, donc son livre « Faites votre révolution alimentaire » édité chez Fayard. Non ! Mais on va quand même continuer aussi à parler de cette fameuse alimentation, pas très loin de ce réseau de canaux qui donc aussi participent à l'identité donc de cette.
Quand vous voyez les diététiciens, les nutritionnistes, etc., jusqu'à présent, ils avaient tendance à faire un peu une expertise comptable de ce que vous allez manger, tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides, etc. Et tout ça, ça a été un peu bouleversé avec l'alimentation que l'on a, qu'on appelle ultra-transformée, où on rajoute des additifs, où l'aliment lui-même est transformé, comme les farines, par exemple. Alors pourquoi ça pose des problèmes ? C'est que finalement, au niveau de vos intestins, vous avez une espèce de soupe chimique. On veut nous faire croire que cette soupe chimique, elle est comestible, mais en fait, elle a tout un tas d'inconvénients et tout ça, ça a des conséquences au niveau des cellules des intestins. Vous avez les cellules des intestins il y a des jonctions et c'est un espèce de filtre qui permet à un certain nombre d'éléments de passer, donc les protéines par exemple.
Et là, les mailles se relâchent.
Et là, les mailles se relâchent. Et les mailles se relâchent, et quand les mailles se relâchent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout un tas d'éléments indésirables qui rentrent au niveau de l'organisme, et ça a deux conséquences majeures. Premièrement, une augmentation spectaculaire des allergies, et deuxièmement, une explosion des maladies dites auto-immunes, où finalement, eh bien, on va faire des auto-anticorps contre son propre corps à cause de ces éléments qui vont être absorbés et dont certains vont mimer quelques molécules du corps. Et du coup, on fait des anticorps, auto-anticorps contre ça, et on détruit comme ça un certain nombre d'organes. Ça peut toucher un petit peu tous les organes. Et donc, il faudrait une réglementation beaucoup plus sévère.
Mais ça, on ne le fait pas. Soyons très clairs, c'est-à-dire que... En
fait, la réglementation n'existe pas.
Là aussi, il y a des mailles du filet qui sont extrêmement larges. Quoi.
Absolument. Comme on ne peut pas prendre des décisions nationales, il faut toujours que ce soit des décisions européennes. On le voit par exemple pour les additifs, des additifs controversés, des additifs pour lesquels on a quand même beaucoup d'interrogations, puis d'autres on a des preuves aussi. Eh bien, la réglementation laisse finalement prospérer l'utilisation de ce genre de produit.
Alors, laisse prospérer, ça veut dire qu'on a l'EFSA donc, qui est d'un côté, on a le lobbying de l'autre qui s'opère, c'est pas forcément le dire un gros mot, et il y a étude contre étude et attente de pouvoir décider, on va dire, librement, alors qu'en fait, pas du tout. On gagne du temps, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à la fois, je dirais, au niveau européen, c'est très prégnant, mais aussi au niveau national, la santé, c'est pas la priorité. La priorité, c'est les affaires économiques. Et on raisonne comme ça. Et vous savez, moi, personnellement, de par les fonctions de mon père, j'ai beaucoup voyagé, et notamment au Moyen-Orient, etc. Et quand on a initié le système tribal, la base, c'est de protéger les membres de la tribu. C'est-à-dire qu'on n'allait pas donner à manger ou à boire un produit qui pouvait être suspect, qui pouvait être avarié. C'était la base, c'était la protection, je dirais la protection santé aussi, des tribus. Bien, ce système tribal qu'on qualifie de primitif, mais en fait qui était extrêmement cohérent, eh bien, il a complètement disparu dans nos sociétés au profit de critères essentiellement économiques. Et quand, si vous voulez, on avance des études, on avance un certain nombre d'arguments, l'agro-business, qu'est-ce qu'elle dit dans toutes ces commissions, etc., etc., eh bien, elle dit le niveau de preuve n'est pas suffisant pour interdire notre produit. Et finalement, ils ont tout un tas, je dirais, de mécanismes pour empêcher ce type de contrôle. Alors, quel type de mécanisme? Au niveau européen, il y a un certain nombre de gens qui vont étudier des données sur un temps limité. Ils doivent rendre leurs conclusions. Eh bien, par exemple, l'agro-business va envoyer tellement d'études, des milliers d'études, qu'ils n'auront pas la possibilité de tout voir. Donc, on arrive à...
Ils vont inonder avec...
Ils vont inonder. Donc, l'objectif, c'est de paralyser le système.
Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron.
Appelez-moi Capitaine Nemo.
Par quel miracle étonnant, votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine?
Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre.
C'est remarquable. On croirait du veau.
C'est du serpent de mer à la grecque.
Passez-moi un peu de lait.
Ce lait, messieurs, est fourni par la mamelle des baleines polaires. Et ces délicieux fruits ne sont en réalité que de simples conserves de potirons de mer.
Je vous rappelle quand même que l'Institut national de la recherche médicale, l'INSERM, a montré qu'il y avait des présomptions assez fortes de certaines maladies quand on est exposé à différents pesticides. Alors, quelles sont ces maladies? C'est les cancers de la moelle, les myélomes, les cancers du sang, le cancer de la prostate, maladie de Parkinson, les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire vous avez des pertes de mémoire. Pourquoi? Parce que votre cerveau a été exposé à certaines substances, aussi sur le plan pulmonaire. Donc, tout ça, c'est de mieux en mieux documenté. Donc, pour la santé, eh bien, le bio, c'est mieux. Pour l'environnement, mais c'est quelque chose qui est fondamental. On ne se rend pas compte à quel point, depuis 50 ans, l'imprégnation de la terre s'est faite par des produits chimiques qu'on maîtrise très très mal. Donc le bio, ça devrait être une priorité non seulement nationale, européenne, mais au niveau mondial.
Et ça ne l'est pas du tout.
Et ça ne l'est pas. Non. Et c'est pour ça qu'avec Claude Aubert, qui est ingénieur agronome, et qui est actuellement à Rome, on a écrit ce livre « Faites votre révolution alimentaire ». C'est-à-dire comment allier à la fois des principes d'équilibre alimentaire et puis la préservation de la planète, ce souci. Et de bien comprendre aussi qu'il y a une évolution sur l'alimentation, c'est que on a ce qu'on appelle de la nutrigénétique, c'est finalement on ne digère pas tous de la même manière. Donc les conseils doivent être de plus en plus personnalisés. On a la nutrigénomique, c'est-à-dire l'influence qu'ont certains aliments sur l'expression des gènes. Et pour prendre un exemple très simple, c'est celui des polyphénols. Ce sont des éléments non nutritifs qu'on va trouver en abondance, par exemple, dans les fruits rouges. Si vous prenez beaucoup de polyphénols, eh bien, ça va avoir un effet sur l'expression de vos gènes. Et c'est un protecteur aussi des cellules de l'organisme. Donc consommer beaucoup de fruits rouges, c'est beaucoup plus efficace que prendre tout un tas de vasodilatateurs qu'on peut être à terme donné quand les gens perdent un peu la mémoire, ou des problèmes de concentration, ou sur ces types de médicaments, vous avez surtout les effets secondaires et les bénéfices sont quand même pas vraiment démontrés. Par contre, si vous prenez beaucoup de fruits rouges, eh bien, vous allez avoir une amélioration de votre capacité. Donc ça, c'est la nutrigénétique. Et puis, on a aussi, je dirais, une approche qui est un petit peu différente, qui est une approche matricielle. Donc l'approche matricielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les éléments de l'aliment vont interagir. Et c'est pour ça que la vitamine C, par exemple, dans une pomme, est 200 fois plus efficace que la vitamine C que vous allez prendre sous forme de comprimé. Ah, parce oui. que tout ça, ça agit en synergie.
Notre agriculture est passée donc à la, on va dire à la sortie de la guerre, de l'agronomie à la chimie. Et on a complètement cassé un modèle, quoi. Et on essaie d'y revenir, mais c'est compliqué. Hein.
Malheureusement, on n'y revient pas. Globalement, on n'y revient pas. Au contraire, c'est toujours la prime au rendement, c'est la prime au gigantisme, c'est finalement beaucoup de freins administratifs et autres pour tous ceux qui cherchent à s'installer. Je dirais que le basculement et le drame, c'est tout d'un coup, les personnes étaient des paysans et sont devenues des producteurs, ce qui n'est plus du tout la même chose. Le paysan, il a une culture, il a un respect des animaux, il a un respect de la terre, il réfléchit à long terme, donc il sait ce qu'il fait. Et il connaît aussi le temps, il sait les aléas, etc. Donc c'est devenu, beaucoup d'entre eux sont devenus des producteurs. Donc des producteurs, ça veut dire quoi? Produire, produire, produire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un système qui se grippe et il y a un système qui se capitalise au mauvais sens du terme et que ça pose un véritable problème. Si vous voulez, la grosse histoire, finalement, et c'est pour ça qu'il faut rester au bio le plus possible, c'est que vous avez les équilibres internes, ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est rompu. Et là, c'est la porte ouverte à tout un tas de maladies.
On n'est pas loin de recevoir une petite gifle là des vagues. Hein, ouais. Et elle a ses yeux verts là. C'est presque la Manche. Hein. C'est vrai qu'elle est très souvent bleue, c'est méditerranée, mais non, pas là. Avec un ciel un peu gris, blanc. C'est
quand même... On voit la nature un petit peu à l'état pur, on voit les éléments, on respire l'iode, on a un petit peu les embruns, on a. Un petit peu cette pureté en bord de mer. Et c'est quelque chose qui est agréable et qui est agréable aussi pour la santé.
Ah, monsieur Antonet, qu'allez-vous nous proposer ce soir? Vous savez que vous nous donnez faim. Chaque fois que vous arrivez, on se dit miam miam.
Écoutez, pour un bon repas, une soupe aux moules.
Ah oui, tiens, c'est une bonne idée.
C'est un régal.
Et je voudrais surtout pas terminer sans parler de la tielle. Voilà, c'est une tourte spécifique. De 7, dans lequel vous avez un peu de calamar, vous avez du poulpe, et ces tourtes, figurez-vous que c'est ce qu'on consommait beaucoup autrefois au Moyen-Âge. Les aliments, les viandes, les légumes étaient mis dans des tourtes, les pommes de terre avec un petit peu de crème, et ici, eh bien, c'est le calamar, le poulpe, la sauce tomate, quelques épices, et avec une pâte qui enrobe un petit peu tout ça, qui est travaillée tout autour.
Donc, la tielle.
Et la tielle sétoise, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est un repas complet avec une belle salade et des fruits.
Voilà, c'est ça. À bientôt, Laurent.
À bientôt, Denis.
Et on peut manger bon, voilà, vous glissez dans la halle de Seine, vous mangez aussi des huîtres du Bassento, et donc tout ira bien. On est donc très très loin des produits ultra transformés, extrêmement opaques et qui ne sont pas bons, voilà. Et Laurent Chevalier nous dit une chose très simple, ok, on avale des saloperies, mais prenez-vous en main, on ne peut pas geindre tout le temps. Faites votre révolution alimentaire, c'est aux éditions Fayard, Laurent Chevalier et Claude Aubert. Et il nous rajoute aussi qu'en général, plus c'est mauvais et plus il faut le masquer. Donc évitons tout cela. Merci à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Juliette Gou qui a réalisé l'émission et à Camille Blanès, notre collaboratrice. La semaine prochaine, je vous emmène en Ardèche avec Marion Fayolle. Nous irons sur les hauts plateaux d'Ardèche. Vous allez voir que cette jeune femme écrivaine. Et puis on se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et sur l'application Radio France. Mais bien sûr, France Inter aussi pour nous écrire. Vous pouvez vous abonner au podcast, c'est au de mon amour et de tous les autres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.